un looping de 540 degrés sur son axe, soit une pirouette bien plus importante que ce qu'avait annoncé la NASA. Elle avait d'abord parlé de 45 degrés de rotation. Ce module russe MLN, également appelé Nauka, science en russe, arrive avec 15 ans de retard sur l'agenda. Il a connu pas mal de déboires pendant sa construction, la propulsion a même dû être revue, donc les astronautes s'étaient finalement préparés à plusieurs éventualités, dont une évacuation d'urgence au cas où. Mais l'arrimage s'est bien passé jusqu'à l'épisode final.
Tout allait bien. Et puis au moment, une heure ou deux, je crois, après l'arrimage de docking, une fois qu'on a baissé un peu la garde, en fait, on a eu un appel du centre de contrôle. On s'est pas rendu compte que la station avait basculé, mais ce qui s'est passé, tout bêtement, c'est que quand on a intégré le MLM dans le système de données, que ça a un peu réveillé son ordinateur de bord, on va dire, lui s'est cru en vol autonome. Et du coup, en vol autonome, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'établir son orientation dans l'espace, en gros, comme tout bon véhicule spatial qui se respecte. Et lui, son orientation, c'est à peu près à plat vers la Terre, sauf que quand il est arrimé à la station, il n'est pas à plat vers la Terre, il a au contraire la tête en bas. Donc lui a cherché à se mettre à plat vers la Terre et il a allumé ses moteurs et puis il a commencé à faire tranquillement sa manœuvre. Le petit souci, c'est qu'il a entraîné toute la station avec lui. Là, comme la rotation était très très douce en fait, on a quand même gardé le pointage des antennes, donc on était en dialogue avec le centre de contrôle. On s'est un peu réparti les tâches. Mais au final, ce qui a récupéré le contrôle d'orientation de la station, c'est de brancher les moteurs tout bêtement côté russe. On a juste fait un petit demi-looping en station spatiale. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont fait, donc c'est plutôt sympa.
Ce module Nauka a vraiment un look des années 80, assez hors norme finalement. En vrai, il a quelle tête?
Oui, c'est vrai. En plus, on s'est habitué, c'est la faute de SpaceX, j'ai envie de dire, on s'est habitué au design moderne, épuré, noir et blanc à la SpaceX, où tout est rond, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse, il ne faut pas qu'il y ait de velcro, parce que c'est pas fait pour que ça soit vraiment très très utilisable. C'est aussi fait un petit peu pour que ça soit joli. Et là, chez les Russes, c'est tout le contraire. C'est pas fait du tout pour que ça soit joli, mais c'est fait pour que ça soit pratique. Donc effectivement, c'est très carré, il y a des grandes armatures en métal, un peu des moquettes au mur. Ça vous est sourire, même avec les collègues russes, on se disait, c'est quand même le module le dernier arrivé sur la station, et puis on dirait qu'en fait c'était le premier arrivé et qu'il était là depuis un petit moment, quoi. Mais c'est pas grave, du moment que ça marche bien, c'est pas fait pour être joli.
Vous avez cette semaine inspecté le tapis roulant de la station avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Mais pourquoi un casque de réalité virtuelle alors qu'il s'agit de faire de la maintenance?
La NASA, dans ce cas-là, regarde l'utilisation de la réalité virtuelle pour aider les astronautes à bord. À bord de la station, on est expert de rien, les astronautes, parce qu'il y a vraiment tellement de choses. Tout est hyper spécifique, tout est hyper technologique, donc c'est vraiment au sein du centre de contrôle que l'expertise réside. Nous, on a un petit vernis de un peu tout, on est capable de se débrouiller un peu. Mais on travaille à base de procédures, on ne connaît pas vraiment le détail des systèmes, et c'est les gens du centre de contrôle qui nous guident en cas de problème, qui nous expliquent, etc. L'idée de ce casque de réalité virtuelle, c'est de s'affranchir un petit peu de ça. Donc on teste la technologie. Le tapis roulant, c'est un exemple qui est assez pratique, parce qu'il est assez générique. L'inspection maintenance, et en fait, ce qu'on voit, c'est on a l'image des systèmes qu'on est en train d'ausculter, on va dire, et superposé, on a vraiment un modèle 3D qui recouvre ce qu'on est en train de voir. C'est assez impressionnant, en fait. C'est un peu comme dans un film de science-fiction. On regarde, je sais pas, un ressort. On a le ressort qui se dessine en trois dimensions, en couleur jaune fluo, pour bien qu'on l'identifie. On a des flèches qui nous montrent par où regarder. Quand on a, par exemple, il faut donner un couple, on a une main qui surgit, qui attrape l'élément qui lui donne un couple, qui le fait tourner. Donc, pour le coup, sur cette inspection, ça a vraiment simplifié la vie. Plutôt que lire des mots compliqués de ce qu'il faut faire, avoir cette main qui apparaît, hop, qui montre exactement là où il faut appuyer, ce qu'il faut tourner, dans quel sens, la bobinette, la chevillette, etc. C'était précieux.